Salut Valérie.
Salut.
OK, là, les Américains ont répliqué à l'attentat suicide qui s'est déroulé là, il y a quelques jours tout près de l'aéroport qui a tué nombre de soldats américains. Les Américains ont dit, écoutez, on a pulvérisé d'autres terroristes qui s'en allaient se faire sauter. Il semble qu'ils ont fait sauter des innocents.
Oui, 10 victimes au moins, dont 7 enfants selon les derniers détails. Donc, dans... Écoutez, d'avoir des victimes civiles, des enfants, ça frappe l'imaginaire et surtout, ça fait pas bien paraître les États-Unis qui, eux, se défendent en disant qu'on va faire enquête et que ce serait parce que, justement, il y avait des explosifs à bord d'un véhicule qu'on a attaqué et c'est ça qui aurait fait, qui aurait causé le décès des enfants. Mais disons qu'à 24 heures, on est à 24 heures, c'est demain la date butoir pour que toutes les troupes américaines quitte l'Afghanistan. On n'est pas à l'abri dans les prochaines heures d'un autre attentat, d'une réplique justement parce qu'il y a eu ces décès-là ou que les Américains frappent encore l'État islamique en Afghanistan justement pour venger la mort des 13 soldats qui d'ailleurs, les dépouilles sont retournées aux États-Unis. Joe Biden qui a eu un moment de prière et de recueillement avec les familles des victimes.
Mais explique aux gens pourquoi politiquement là, c'est très périlleux ce qui se passe présentement pour le président Biden.
Avec l'Afghanistan, en ce moment, ce qui est périlleux, c'est parce que est-ce qu'on fait bien de retirer les troupes? Juste si un Américain reste là, on l'abandonne, entre guillemets, il reste en Afghanistan.
Parce qu'il y en a qui n'ont pas été capables d'aller à l'aéroport.
Oui, on dit qu'il y a autour de 300 Américains qui sont toujours sur place selon les derniers chiffres. Est-ce que même s'il y en a 10, même s'il y en a 2 et qu'il y a un Américain qui se fait enlever, qui se fait attaquer, qui se fait tuer, imaginez les optiques politiques de tout ça. Et là, il y a des démocrates en ce moment qui se disent, faut faire attention, faut se détacher un peu de Joe Biden parce qu'il y a des démocrates qui disent au président, restez le plus longtemps possible pour s'assurer que le dernier Américain est bel et bien rapatrié. Et pas juste ça, que tous les interprètes, les fictions, on en a parlé beaucoup de ce dossier-là avec Fabrice, entre autres, de dire qu'ils sont tous rapatriés, qu'ils n'ont pas aidé les Américains, les Alliés en vain, finalement.
OK, parlons un peu de l'ouragan Ida. Ça aussi, c'est périlleux politiquement. On l'a vu, là, en 2004, il y a un dénommé George W. Bush, qui avait été extrêmement critiqué parce qu'il était plus intéressé à regarder les matchs de football que de regarder ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans à l'époque.
Oui, qui est en vacances au Texas pendant que l'ouragan frappait la Nouvelle-Orléans. On se rappelle de la fameuse photo là, pour les gens qui suivaient l'actualité à l'époque. George Bush qui regarde son avion, il regarde à quel point la Nouvelle-Orléans est détruite. On avait dit qu'il était complètement détaché de cette crise-là, qu'il s'en foutait.
Ça avait pris beaucoup de temps avant que la Maison-Blanche réagisse à l'époque.
Et oui, puis on donnait des félicitations aux gens qui avaient géré la crise quand il y avait plus de 1000 morts, les Afro-Américains qui avaient été largement touchés. Alors, c'est très périlleux de gérer une catastrophe naturelle. Et ça rappelle justement Bush, pas juste parce qu'on ouragan encore à la Nouvelle-Orléans, c'est parce que à l'époque de Katrina, il y avait la guerre en Irak, il y avait beaucoup de décès américains. Alors en ce moment, on doit gérer les deux crises, mais je te dirais que ça va être très froid comme calcul, que pour Joe Biden, c'est peut-être la nouvelle qu'il attendait. Et je te dis, c'est très froid ce que je dis en ce moment, parce que s'il gère bien cette crise-là, ça va l'aider dans sa cote de popularité, parce que jusqu'à maintenant, il est solide. On l'a vu, j'ai trouvé ça dans les optiques que c'était bien, dans les bureaux de FEMA, donc l'agence qui gère la crise, il était présent, il était là à chaque heure lorsque l'ouragan a frappé la Nouvelle-Orléans. Donc ça démontre du leadership. Peut-être que ça va l'aider, mais je dis ça encore une fois, ça passe un calcul politique et non d'un calcul humain.
Évidemment, évidemment. OK, parle-nous de... Il y a une histoire à Chicago qui sort de l'ordinaire, Valérie. Là, il y a une mère qui a perdu la garde de son fils parce qu'elle a choisi de ne pas être vaccinée.
Oui, le 10 août dernier, imagine-toi, c'était même pas ça le sujet de l'audience devant le juge. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait s'entendre sur une pension alimentaire, donc des parents qui sont séparés, un garçon au centre de tout ça. Et finalement, le juge, pendant l'audience, a décidé de poser la question à la femme en disant « Mais vous, est-ce que vous êtes vaccinée? » Elle dit « Non, je ne suis pas vaccinée. C'est pas pour des raisons politiques, mais j'ai choisi pour des raisons médicales de ne pas l'être. » Alors, il dit « Parfait, tant que vous n'êtes pas vaccinée, vous ne faites pas les démarches, vous n'avez plus la garde de votre fils. » On dit que le père, ce n'est pas ce qu'il avait demandé, mais qu'il acceptait donc la décision. Et là, ça a fait une controverse. Elle a commencé à donner des entrevues un peu partout aux États-Unis. Et le juge est un peu dans l'eau chaude en disant « Il n'y a pas de précédent et ce n'était pas l'objectif. Il n'y avait pas un danger, il n'y avait pas une raison derrière. » Alors finalement, aujourd'hui, il a renversé sa propre décision en disant qu'elle pouvait avoir la garde de son fils tel que c'était prévu, mais en faisant pratiquement un petit clin d'œil au père en disant « Si vous voulez retourner en cour puis utiliser cet argument-là, ça se peut que le jugement soit en votre faveur. »
Même moi qui est en faveur de la vaccination, là, on le sait, là, je suis très pro-vaccin, même là, je trouve que ça va un peu loin.
Et ça crée un précédent, parce qu'après ça, est-ce que c'est pour une raison médicale? Par exemple, si l'enfant, je ne sais pas, il y a des traitements de chimio ou autre, puis il y a une raison pourquoi on dit la mère, il y a un danger pour la santé.
Il y a des gens qui ont des conditions médicales qui sont, disons, incompatibles avec la vaccination.
Oui.
Oui, ça existe. Là.
Exactement. Elle a dit que c'est vraiment une raison médicale. Son médecin lui a suggéré de pas le faire. Mais ce qui est particulier, c'est que le juge, sans même qu'on lui demande, lui décide de prendre la décision pour le père en disant, ben, elle est pas vaccinée. Vous avez la garde complète, monsieur, tant qu'elle ne l'est pas. Alors, vraiment, il y avait pas vraiment, je n'avais pas le choix, à mon avis, parce qu'on allait en cours d'appel et ça allait être renversé. Ça allait être en renversé, à mon avis.
Formidable histoire. Merci, Valérie. On va se retrouver un peu plus tard cette semaine. MC, t'as fait une drôle de face quand Valérie Beaudoin racontait l'histoire de vaccination du juge.
Ben, je trouvais ça intense un petit peu comme je suis pro-vaccination.
Un peu taliban, tu sais.
Puis je faisais une drôle de face aussi parce qu'un auditeur, Simon, nous écrit, est-ce que c'est du sport, les échecs?
J'ai déjà vu ça dans des sections sportives.
Mais savais-tu que c'est un Français qui a gagné le championnat d'échecs du Rapid Blitz de Zareb? Il s'appelle Maxime Vachier-Lagrave. Je l'ai vérifié et c'est vrai. Alors, on le salue.
Comment on écrit le premier nom de famille?
Vachier.
V-A-C-H-I-E-R.
Lagrave.
Mon Dieu.
Okay. Il n'y avait pas le choix de devenir bon aux échecs.
Il y a des jours où j'ai trouvé ça difficile à porter, l'agacer, mais il y a pire que ça, mon cher MC.
Il y a toujours pire.
15h32.